Il y a beaucoup d'expatriés où c'est le papa qui travaille puis la maman ne travaille pas. Puis quand mes enfants étaient plus petits, des fois, je regrettais parce que je manquais des opportunités. Tu sais, moi, je ne peux pas aller du mercredi au vendredi louer une petite cabane sur la plage à Cuba puis passer du temps avec les enfants puis les autres mamans. Tu sais, ça marchait pas, ça rentrait pas dans... Fait que je pense que c'est peut-être un peu des regrets comme ça, mais en même temps, je me verrais tellement pas dans cette vie-là que je me dis, bon, mais les 4-5 fois dans ma vie où j'ai eu un petit regret, je pense que, tu sais, ça va, là, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça aussi dans l'avenir puis dans ce qui s'en vient, puis vouloir continuer, mais aussi peut-être avoir le temps, justement, là, de prendre le temps, mais de vivre encore à l'étranger la vie que j'ai, mais en étant celle qui, tu sais, qui peut prendre le pas de recul puis rester à la maison puis s'organiser puis planifier tout ça.
Voici le 5e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gem et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation épineuse à l'étranger, je vous souhaite d'être dans un pays où mon invité d'aujourd'hui est en poste. Valérie Sorel a toujours été curieuse de découvrir les cultures du monde et passionnée de voyage. Après ses études en administration des affaires, elle a commencé à travailler à l'étranger. Accompagnée de son conjoint, rencontré en Europe de l'Est et de leurs deux enfants, Valérie a occupé des postes en Ukraine, à Cuba, en Turquie et à Ottawa. Elle est présentement stationnée à Beijing, en Chine. Dans cette entrevue, on parle de son enfance à Greenfield Park et de sa vie de famille globetrotteur multilingue avec deux ados. On touche au défi de vivre si loin de nos parents quand on vieillit, surtout au temps de la COVID. On aborde l'importance pour Valérie d'apporter un peu de douceur et de réconfort aux personnes prises dans des situations parfois tragiques, loin de chez eux. Enfin, on se projette dans l'avenir pour imaginer un tout autre style de vie une fois à la retraite. Merci de partager ce moment avec nous. J'accueille aujourd'hui à La Quarantaine mon amie Valérie Sorel. Bonjour Valérie.
Bonjour Brigitte.
Ça me fait grand plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi en studio. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, certainement pas parlé en profondeur comme ça, peut-être oui. Depuis qu'on était ados.
Probablement.
Et ça me touche particulièrement que tu t'es pris le temps d'avoir cette conversation-là parce que tu es une femme bien occupée. On va en parler et j'aimerais justement qu'on commence en donnant à nos auditeurs une idée de c'est quoi la vie de Valérie Sorel au quotidien.
OK. Bien, présentement, je travaille puis j'habite à Beijing. Je suis là parce que je suis la consule du Canada, l'ambassade du Canada à Beijing. Je suis là avec ma famille. J'ai des jumeaux, un garçon puis une fille qui ont 14 ans. Puis mon conjoint aussi, qui lui aussi travaille à l'ambassade. Donc, notre vie, c'est souvent des épisodes de 3 ou 4 ans, puis ça change. On a déjà habité à la Barbade, on a habité en Ukraine, on a habité à Cuba, on a habité en Turquie, puis là, on a abouti à Beijing l'année dernière. Donc, une journée dans ma vie, ben, quand c'est la semaine, quand c'est une journée d'école, habituellement, je me lève avec les enfants, je me prépare, eux aussi se préparent, ils partent pour l'école. Puis moi, ça me laisse un petit peu de temps pour déjeuner avec mon conjoint, puis après, on marche pour aller au travail. Ça, c'est le plus gros désavantage, en fait, à part quand on habitait à la Barbade, j'ai toujours eu la chance de marcher pour aller au travail. Puis quand on revient au Canada, c'est ce qui me manque le plus, en fait, quand on habite à Gatineau, puis qu'on travaille à Ottawa, en tout cas, on prend le transport en commun ou on conduit, mais ça, ce moment-là, puis là, présentement, on habite vraiment près, là, ça me prend 10 minutes, puis je suis rendue au travail. Donc ça ajoute à la qualité de vie aussi, parce qu'il n'y a pas de temps perdu dans le transport. C'est sûr que quand je prends le transport en commun, je lis, je fais du crochet ou des choses comme ça, mais là, je trouve vraiment que je peux tout de suite partir, être au travail, puis quitter le travail, puis être dans mes affaires tout de suite après. Fait que ça, puis une journée au travail, ben c'est vraiment très varié. Mon emploi présentement, c'est surtout concentré sur le support qu'on offre aux Canadiens qui sont en Chine. On doit surtout apporter du support aux gens qui sont en détention. Ça c'est un groupe de gens qui sont vulnérables puis de qui on on essaie là, pour qui on essaie de faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que c'est le plus le plus doux possible pour eux. Je pense que je vais le mettre comme ça parce que c'est jamais facile. Puis c'est pas parce qu'on est Canadien que les conditions sont différentes, mais au moins on est là pour nous assurer que les conditions de base, si elles sont pas respectées, on le fait savoir puis on travaille à ce que ça s'améliore. Donc, puis, mais il y a aussi plein de choses. C'est sûr qu'à cause de la COVID, puis le fait que la Chine est très fermée présentement, il y a presque pas de touristes en Chine. Quand il y a des touristes, notre travail aussi, c'est quand il arrive des événements malheureux, des décès ou une hospitalisation, tout ça, on est là aussi pour supporter les Canadiens qui auraient besoin qu'on puisse soit les aider à communiquer, à faire venir des fonds, des choses comme ça. Donc ça, c'est comme le travail au quotidien. Gérer une équipe aussi d'employés et Canadiens et d'employés locaux en Chine, donc des employés chinois dans tous les autres pays, des employés de ces pays-là. Donc ça fait une vie assez intéressante du côté culturel en essayant de garder ce qu'on est comme Canadien parce que dans le milieu de travail, justement, on veut promouvoir les valeurs canadiennes. Mais en même temps, tout en étant très attentif aussi à la culture locale pour s'assurer qu'on fait ce qu'on doit faire, mais en même temps en ajoutant la saveur locale finalement. Donc c'est ça. Fait que, je suis toujours épatée. Je pense surtout quand j'ai déménagé en Chine l'été dernier, je me disais, oh, ça va être vraiment l'endroit où ça va être le plus différent. Puis en fait, dans notre bulle, enfin, j'habite à Chaoyang, qui est comme une municipalité de la province de Beijing, là. Là, c'est assez pas américanisé, mais tu sais, très très aussi très européen. Il y a des cafés, il y a des croissants, il y a un McDo, il y a un Starbucks. C'est pas si différent finalement. Mes enfants vont au lycée français, donc ce système-là, on le connaît bien. Ça a toujours été le système dans lequel ils sont allés à l'école. Donc ça aussi, fait qu'il y a plein de points de repère qui sont là. Quand moi je vais au travail, puis qu'on parle en français, puis que je peux, si on fait une soirée, puis il y a de la Moosehead, ben on boit de la bière canadienne, tout ça. C'est comme, mais en même temps. Quand je prends le taxi, il n'y a personne qui parle anglais nulle part. J'essaie d'utiliser mes applications. C'est déjà tellement plus facile maintenant qu'on peut faire du Google Translate, chose qui n'existait pas du tout avant qu'on arrive en Turquie, puis dont on n'avait pas autant besoin non plus en Turquie. Je prends aussi des cours de mandarin, 3 heures par semaine. Ça, je pense que c'est mon plus gros défi. À 45 ans, je pense que j'ai été tellement émerveillée quand j'ai réussi à lire pour la première fois comme une phrase en caractère. Là, je pensais pas que j'allais apprendre quelque chose d'aussi différent rendu à cette étape-ci de ma vie, que ça m'a encouragée finalement.
Ça, tu grouilles ou ça rouille, comme on disait avant de commencer à enregistrer, puis c'est vrai surtout pour le cerveau, plus on s'en sert. Donc, j'espère que tu vas continuer à avoir des postes dans des endroits où tu vas avoir à apprendre des langues étrangères.
Oui,
Ça va
oui.
t'aider. Tes enfants ont quel âge?
Les enfants, ils ont 14 ans. C'est des jumeaux, un gars, une fille. Donc, ça, je pense que dans notre vie comme telle, c'était un gros avantage d'avoir deux enfants qui sont toujours rendus à la même étape, là. Fait que quand on recherche des activités, quand on s'inscrit à l'école, quand on s'intègre à l'école, il y a comme, même s'ils sont très différents, il y a quand même une base, là. Les intérêts sont quand même là, leurs capacités sont au même point. Donc, ça, c'est aussi, ça rend la vie, ça rend la vie plus facile. Puis, ça fait aussi qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui connaisse à leur niveau où ils vont. Mais ça les a rendus quand même super sociables. Je pense que, au début, quand ils étaient plus petits, moi, je me trouvais chanceuse. J'avais pas besoin d'arranger ça, moi, des playdates, tout ça, parce que eux, là, ils allaient à la prématernelle, ils allaient à la maternelle, puis après ça, il y en avait assez. Ils voulaient revenir, puis ils voulaient faire leurs choses, leurs deux ensemble. Là, c'est un peu moins comme ça, là. Quand même. Ils ont un groupe d'amis en commun, puis ça se déroule bien.
Wow! Quelle réalité différente de celle, certainement, de la plupart des invités que j'ai eus jusqu'à présent.
Oui.
Parle-moi aussi un peu de ta vie à l'extérieur du travail quand les journées sont finies ou est-ce que les journées finissent? Parce que j'imagine aussi qu'il y a un aspect un peu, peut-être avec la COVID, moins mondain que d'habitude, là, mais est-ce que tu arrives à être un peu une soccer mom la fin de semaine ou le travail
Oui.
prend toute la place?
Non, je pense que En fait, c'est très ponctuel. Quand il n'y a pas de ce que nous, on appelle une crise, là, ça n'a pas toujours besoin d'être des vies en danger, là, mais admettons, on annonce un typhon. Ben là, tout d'un coup, faut faire un blitz parce que là, il faut informer les Canadiens, il faut s'assurer que les gens ont ce qu'il faut. Si jamais il faut fermer le bureau, ben là, faut savoir ce qu'on va faire, tout ça. Donc, il y a cet aspect-là qui arrive n'importe quel jour, n'importe quand. C'est beaucoup moins comme ça en Chine, mais je me souviens quand j'étais à Cuba, appel en plein milieu de la nuit pour dire à un Canadien qui, je sais pas, qui s'est noyé dans tel hôtel ou des choses comme ça. Donc ça va, ça vient, mais quand on se sort de ça, après ça, il y a la possibilité, oui, de, tu sais, de bien profiter de bien profiter de la vie aussi, non? Mais c'est sûr que, en fait, je suis dans c'est vraiment un grand moment de transition pour moi aussi, parce qu'avec mes ados qui maintenant ont plus besoin de moi autant, plus besoin de leur papa autant non plus, ça nous donne du temps comme couple qu'on n'avait pas. Ça fait super, tu sais, depuis qu'ils sont nés, en fait. Donc là, on essaie de se réhabituer à ça, de se retrouver des activités à faire en dehors de la maison, tout ça. C'est sûr que le COVID, ça l'a changé plein de choses, parce que justement, on était obligé de... Quand on habitait en Turquie, il y avait des couvre-feux ou des couvre-feux quand même assez sévères, donc on pouvait pas sortir la fin de semaine, mais on pouvait pas sortir le soir, tout ça. Fait qu'on s'est comme trouvé des activités. On a joué à beaucoup de jeux de société, puis chacun a aussi développé des passe-temps séparés, là. On a fait beaucoup de coloriage, puis de bracelets d'amitié, tout ça. Fait qu'en arrivant en Chine, avec mes enfants qui, là, ont trouvé une liberté qu'on n'avait pas en Turquie, à cause de la COVID, mais aussi à cause des conditions. En Chine, c'est sûr que, bon, il y a des caméras partout, puis tout le monde sait ce qu'on fait tout le temps. Mais quand t'es maman d'ado, des fois, ça a un bon côté. Ça te laisse peut-être un petit peu plus... être un petit peu plus ouverte à « Ah, oh, je vais aller à tel endroit où je vais faire telle chose. » Donc ça, c'était nouveau aussi. Fait que comme s'habituer à tout ça. Tourner au cinéma tout seul comme couple sans avoir besoin de penser, on a-tu une gardienne, on va-tu rester assez longtemps, qu'est-ce qu'ils vont manger, ou justement là, ou partir puis changer d'idée en plein milieu de la journée, puis juste appeler puis dire bon ben on reviendra pas, vous êtes capable de vous trouver quelque chose à manger, puis ça finit là. Mais moi personnellement, toute seule, je suis pas encore rendue là, je pense. Je suis encore une maman, je suis encore une conjointe, je suis encore une employée. Mais ça me va. Moi, je me sens pas. Tu sais, je pense à comment j'étais au secondaire, tout ça. Puis je me souviens, j'avais la chance d'avoir des amis qui avaient des chalets, puis là, on s'organisait des fins de semaine. Puis je suis comme, OK, moi, je vais faire le menu, je vais aller chercher faire l'épicerie, puis tout ça. Puis, tu sais, ça me faisait plaisir. J'adore cuisiner, j'adore découvrir plein de choses comme ça. En fait, c'est comme ça que moi, j'aime me valoriser aussi, là, en faisant ça, ou en cuisant des biscuits pour mes employés ou des choses comme ça. Tu sais, moi, je relaxe comme ça, puis je suis contente de pouvoir en faire bénéficier les autres aussi.
Wow! Non, mais tu peins une image. Moi, mes enfants sont un peu plus jeunes, 7 ans et 10 ans présentement, donc je me dis, qu'est-ce que tu veux
Ça
dire
sent bien.
que tu les appelles puis tu leur dis, je ne veux pas rentrer? Je suis sûre qu'ils sont bien contents la plupart du temps, tu sais. Alors, ça
C'est
fait leur
ça.
affaire. Alors, il y a
Oui.
un avenir
Oui.
pour moi. Je vais continuer à
Tout
travailler
à fait.
là-dessus. Merci, Valérie, pour le tour d'horizon. J'aimerais maintenant qu'on retourne en arrière un peu, puis qu'on plonge dans la question de tes racines. D'où viens-tu pour nous aider à mieux
Oui.
percevoir la suite? Parle-moi un peu d'où tu viens.
Ben, en fait, moi, je viens d'une ville, la rive sud de Montréal, qui s'appelle Greenfield Park, qui fait maintenant partie de Longueuil. La particularité de cette ville-là, c'est que c'était surtout anglophone. Donc, très, très vite, l'anglais, ça fait partie de ma vie. Puis aussi, d'une manière, je pense, assez positive, parce que bon, c'est sûr que dans les années là autour des référendums, puis tout ça a été un peu, des fois ça a été un peu tendu, des fois il y a eu des moi j'ai des j'ai connu des gens après dans ma vie qui me disaient, ah, ben moi au secondaire là je voulais pas apprendre l'anglais parce que ben moi j'étais souverainiste ou j'étais séparatiste, puis je voyais pas le but de ça, mais maintenant je le regrette parce qu'il y a tellement d'opportunités pas juste au Canada, mais partout dans le monde, qui m'échappent à cause de ça. Donc moi, ça fait partie, ça, de ma vie. J'ai grandi dans une famille, je dirais, en tout cas, moi, dans ce temps-là, je pensais tout à fait typique et très, très ordinaire et comme tout le monde, là. Mon père était enseignant au primaire, ma mère était secrétaire. Donc, il y avait des emplois qui faisaient qu'on avait une vie super stable, tu sais, on mangeait, puis pas parce qu'on avait une routine puis il fallait absolument le faire, là, mais tu sais, mes deux parents étaient là tous les soirs, on mangeait vers 5h30, tu sais, la vie continuait. S'il y avait besoin d'avoir un lift pour aller chez un ami ou une amie qui habitait loin, parce que, comme tu sais, Brigitte, à l'école internationale, on avait des amis qui habitaient un peu partout, puis nos parents... On a écopé un peu par rapport à ça. Moi, j'ai toujours eu justement là, des parents qui n'ont jamais rien dit ou qui n'ont jamais rien dit parce que je vais faire partie de la pièce de théâtre, puis que là, une fois par semaine, ils devaient venir me chercher à 5h30 ou tout ça. Donc, c'est ça, une vie tranquille. J'ai un frère aussi qui est 3 ans plus jeune que moi. Et puis, tu sais, ça, grandi, petite vie tranquille, mais j'étais intéressée, j'étais curieuse. J'avais des voisins qui étaient libanais, j'avais d'autres voisins qui étaient vietnamiens, d'autres voisins haïtiens. Puis ça me fascinait beaucoup. Puis je les trouvais donc chanceux d'avoir cet élément exotique-là dans leur vie. Alors, je pense que ça a toujours fait partie de moi. Mon premier voyage, c'était en Europe avec l'école. En fait, j'allais en Angleterre, en France. C'est la première fois que je prenais l'avion. J'étais déjà sortie du Canada parce qu'on était allé aux États-Unis, mais jamais en avion. Ça m'a comme donné la piqûre. Puis après ça, j'ai continué comme ça. Ma mère, elle me dit toujours que... Parce que mon conjoint, en fait, il est d'origine croate, puis je l'ai rencontré quand je suis allée travailler là-bas. Ma mère, elle me dit, ah, moi, depuis que tu as 5 ans que je sais que ton conjoint, ça sera pas un Québécois francophone blanc. C'était pas ça qu'elle voyait pour moi. Puis je pense qu'elle avait bien vu. Pas que j'ai choisi tant comme ça, mais j'avais envie de ça, en fait.
De découvrir le monde davantage au-delà
Oui.
de notre
Oui.
petite vie de banlieue de.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est drôle parce que je réfléchissais un peu à tout ça, puis je me disais, pour moi, la stabilité, c'est important, mais une stabilité, je ne sais pas comment dire, c'est comme si j'ai besoin d'une base, puis après ça, je peux faire plein de choses. Pour moi, d'habiter en Chine présentement, c'est pas déstabilisant. Ma base, elle est là. J'ai mon emploi que je connais bien, j'ai ma famille qui est là avec moi. Donc, on part dans des aventures, mais avec toujours comme une espèce de filet de sûreté qui est là. Puis c'est ça qui me permet, en fait, là, d'essayer plein de choses. Puis je pense que c'est comme ça depuis ma jeunesse. Puis mes parents, la vie de famille qu'on avait, c'était ça ma base qui m'a permis de faire ces choses-là après.
Cette base-là peut être autant émotive que géographique, en
Oui,
fin de compte.
exactement.
Bon. D'avoir ton unité familiale, pour utiliser un terme plate,
Oui,
là,
oui.
qui est avec toi, puis ton identité est sécure dans ça, tu sais.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres. Est-ce que. En fait, comment tu vois cette présence-là de tes origines dans ton travail d'aujourd'hui? Ou pas juste dans ton travail, mais dans ta
Oui,
vie
ma vie
d'aujourd'hui?
aussi. Ben, c'est intéressant. C'est quand on habite à l'étranger comme ça, puis je suis une fonctionnaire du gouvernement fédéral, on a l'option d'envoyer nos enfants à l'école française ou à l'école anglaise. Si on décide que c'est l'école française, c'est un lycée français seulement qui est bien établi. Ou sinon, il y a plein d'écoles internationales qui offrent plein de choses. Puis moi, par mes origines, justement, ce que ça a fait, c'est qu'avec mon conjoint, on a pris la décision que c'était dans un milieu francophone qu'on allait élever nos enfants. Donc, la langue à la maison, même si c'est ça qui est étrange, hein. Mon conjoint et moi, on se parle en anglais, mais notre vie de famille est toujours en français. Donc, ça fait un beau mélange, là. Jusqu'à il y a peut-être 2 ans, mes enfants disaient qu'ils parlaient pas anglais, mais en fait, ils avaient tout emmagasiné. Puis une fois qu'ils ont commencé, c'est parti, là. Mais oui, c'est ça. Fait que mes origines, c'est ça que ça. Ça, c'est une des décisions conscientes qu'on a prises parce que pour moi, c'était important. J'avais l'impression que si, avec tous les changements puis tout ce qu'on vivait, si on n'avait pas le français comme base, comme ça, s'il n'y avait pas une éducation en français, cette partie-là allait comme vraiment disparaître. Puis pour moi, c'était essentiel. Tu sais, J'espère que mes enfants vont élever leurs enfants en français. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. T'sais, c'est tellement cosmopolite, mais il y a cette opportunité-là qui est là. Mes origines aussi, je pense d'être très présente pour mes enfants. C'est sûr que mon éducation, c'est ça que ça a fait aussi. Puis de me sentir bien là-dedans aussi, parce que je pense que, en tout cas, t'sais, je pense pas que mes parents. Bon, c'est toujours dur d'être parent, là, mais je pense qu'ils ont eu l'air d'avoir aimé ça, d'être parents, puis en tout cas, de trouver là, une partie de bonheur dans ça. Puis des fois, je trouve que c'est justement ça, le portrait qu'on donne de la vie de parents présentement, là. Oh, faut que la maman boive son vin, puis il faut que le papa y aille faire quelque chose. T'sais, je me dis, c'est pas tout le temps dur, là. Il y en a plein de beaux moments avec nos enfants. Puis oui, il y en a des moments difficiles aussi, mais c'est comme ça, c'est comme dans tout, là.
Tout à
C'est
fait,
ça.
tout à fait. Est-ce que ton conjoint parle aussi français?
Oui, en fait, mon conjoint parle plusieurs langues. Ça, c'est bien, là, il y a une facilité des langues. Mais oui, puis à travers ça, c'est vraiment drôle, là. Il a pas eu facile pour apprendre le français. En fait, il a commencé quand nous, on s'est rencontrés à l'université. En fait, après l'université, on a travaillé ensemble en Croatie. Puis après, moi, je suis revenue au Canada, puis lui aussi est venu. Puis là, quand moi je suis partie dans mon premier poste à la Barbade, bon, il a suivi, il n'y avait pas d'emploi, tout ça. Là, on s'est dit, ben, si tu veux grandir dans le milieu canadien, c'est une bonne idée de parler français. Donc, il a commencé à prendre des cours. Mais là, il prenait des cours à l'Alliance française d'une Marocaine qui avait aussi habité au Nouveau-Brunswick. Fait que l'accent était vraiment, là, tellement mourant. Après ça, il a continué. Quand on est revenu au Canada, là, il a continué à prendre des cours là. Après ça, on a déménagé à Cuba où là, il y avait une prof qui avait un accent du sud de la France. Elle est vraiment là, tellement drôle. Donc, puis en plus, nous, on parle québécois à la maison, fait que ça a ajouté plein de touches là. Fait que oui, là, il se débrouille très très bien en français, assez pour que justement là, notre vie avec les enfants, c'est tout en français.
C'est magnifique. Moi, j'ai eu le bonheur de visiter la Croatie il y a très longtemps, ça fait à peu près 20 ans. Puis, à toutes les fois que j'entendais des Croates parler, je pensais que c'était ma famille des fins fonds ruraux du Québec. Je ne sais pas si c'est une rondeur ou qu'est-ce que c'est dans l'accent croate qui fait que ça ressemble beaucoup au québécois. Donc, j'ai toujours pensé que ça lui donnerait peut-être une longueur d'avance.
Ouais, c'est ça.
À se
Mais je pense
faire
qu'il y a aussi
comprendre.
le je pense qu'il y a la jovialité qui vient dans tout ça aussi. C'est des gens là qui aiment rire, qui sont très expressifs aussi là, pour des gens qui ont vécu dans si on veut l'Europe de l'Est qu'on connaît là. Mais ouais, je pense que c'est peut-être là que vient cette similarité,
Tout à fait. Je pense que c'est
similitude.
des cultures fort compatibles. J'avais
Oui,
passé un
oui.
super séjour. Parlons un peu de ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui à tous les égards. J'aimerais qu'on parle des choix petits et grands qui te semblent avoir été importants pour comprendre ta vie d'aujourd'hui.
Moi, je suis quelqu'un qui croit, je dirais pas au destin, là, mais je pense toujours que quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir ailleurs. Je suis pas non plus quelqu'un qui va regarder en arrière et qui va être triste ou déçu. Je me dis, bon, ça n'a pas marché, on continue, on va trouver d'autres choses, mais c'est pas du positivisme là, toxique ou quoi que ce soit. C'est plus comme, bon, est-ce que je peux contrôler ce qui se passe? Oui, bien, je vais mettre les efforts qu'il faut pour le contrôler. Est-ce que si je peux pas le contrôler, bon, bien, je vais faire avec, puis je vais faire du mieux que je peux avec ça. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est ça qui fait que je suis rendue où je suis, puis que je suis capable de changer comme ça de vie là, du tout au tout à tous les 3 ans, parce que bon, ce que je contrôle, je le contrôle, puis je sais ce qui s'en vient, puis le reste, ben, tu sais, je roule avec ce qui se passe, puis on continue. Avec des décisions, ben, une des choses, quand j'ai fini le cégep, je savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, ça a jamais été clair, clair dans ma tête. Puis les HEC m'ont offert une bourse d'études. Puis là, je me suis dit, oh, ben, ça pourrait être intéressant. Puis après ça, il y avait un programme d'études à l'étranger, un semestre à l'étranger. Fait que là, je me suis dit, ah oh, oui, c'est ça que je veux faire. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai pas été sélectionnée pour faire mon semestre à l'étranger. Ça
Tu
m'a
ne devais
donné un
pas
gros
avoir ce qu'il
coup.
fallait pour faire les affaires
Ça doit être
internationales,
ça.
Valérie.
Non, c'est ça. Là, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je me suis retournée vers une association étudiante qui, eux, faisaient des stages à l'étranger, puis tout ça. Puis c'est là vraiment que cette décision-là, parce que dans le fond, j'aurais pu être bien triste puis me dire, bon, mais tu sais, c'est pas pour moi, puis tout ça. Mais j'ai trouvé une autre avenue. Puis en fait, avec cette association-là qui était un peu partout dans le monde, on faisait des conférences de leadership, de différentes choses. Puis à la fin de l'université, je suis allée travailler en Croatie. Puis c'est là que j'ai rencontré mon conjoint parce que lui aussi, en Croatie, faisait partie de cette association étudiante-là. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis après ça, ben tu sais, ça s'est comme un peu, ça s'est déroulé comme ça. Moi, je suis restée une autre année là-bas avec lui. Moi, il fallait que je rentre. Lui, il fallait qu'il fasse son service militaire. On a décidé qu'on verrait ce qui se passerait après. Après, on a décidé qu'on voulait commencer une vie ensemble. Donc, c'est lui qui a pris ses deux valises, qui est venu au Canada. Mais tu vois, 8 mois plus tard, moi, je venais juste de commencer à travailler au ministère des Affaires étrangères. 8 mois plus tard, on s'en allait à la Barbade pour le premier poste. Donc, puis après ça, ça a toujours continué de rouler comme ça, si on veut. Tu sais, des fois, j'ai l'impression, il y a plein de choses qui m'arrivent, c'est pas des décisions comme le fait d'avoir des jumeaux. Bon, OK, j'ai 2 enfants, mais j'ai eu une grossesse, un congé maternité. Tu sais, c'est comme ces choses-là, ça arrive comme ça, puis c'est ça. Ouais, c'est surtout, fait que je te dirais pas que je suis insouciante puis que je réfléchis pas, mais je me casse pas trop la tête, je me fais beaucoup confiance, je me connais beaucoup, je fais aussi confiance à ce qui se passe là en moi quand vient le temps de prendre une décision. Puis à date, j'ai pas été déçue, puis ça me va parce que je pense que je suis capable de m'adapter après puis de vivre avec les conséquences. J'ai aussi, tu sais, je pense que je peux pas le nier là, tu sais, je fais partie d'une classe privilégiée là, dans le sens qu'il y a plein de choses qui sont faciles pour moi. Puis en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'impression que si je veux le faire, je vais travailler pour le faire, puis ça devrait se passer. Puis comme ce qui s'est passé à l'université, si c'est pas ça qui se passe, il y a quelque chose d'autre qui va faire que je vais être capable d'être heureuse puis de continuer à cheminer finalement.
Tu as fait le choix, je suppose que c'est un choix d'aller du côté du secteur public du ministère des Affaires étrangères, alors que oui. Je peux imaginer qu'il y a beaucoup de gens avec ton background en administration des affaires qui ont choisi d'aller plutôt vers le secteur privé. Peux-tu me parler de cette décision-là?
Bien, encore une fois, c'est vraiment étrange. Un jour, je suis allée dans une réception, je me souviens plus. Je pense que c'est le mariage de quelqu'un. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a parlé du service extérieur, justement. Puis là, je me disais, oh, ça a l'air vraiment intéressant. Puis j'ai appliqué, puis c'est un long processus. Ça a pris presque 2 ans en tout avant que j'ai ça. Fait que j'ai travaillé dans le secteur privé avant. Mon premier emploi, quand je suis revenue de Croatie, c'était dans une compagnie qui faisait des outils sur mesure pour l'industrie du bois. Puis je faisais le marketing pour cette compagnie-là. Puis bon, on faisait des foires commerciales un peu partout aux États-Unis, puis tout ça. Je trouvais ça intéressant, mais tu sais, quand même pas tant là. Déjà,
pas passionnant.
C'était pas passionnant, mettons.
Le feu sacré de la machinerie.
Oui, c'est ça. Tu sais, bof. Mais je trouvais ça intéressant parce que mon patron était super, je sais pas comment dire, il avait plein d'idées, puis c'était un écrivain en herbe, puis fait que tu sais, ça m'a donné plein d'idées que c'est pas parce que t'avais un travail comme tel que fallait que toute ta vie soit, tu sais, pas parce que t'es un comptable qu'il faut que toute ta vie soit plate, là. Il y a plein de comptables que je connais avec qui j'étais allée à l'école qui ont des vies passionnantes, tu sais, fait qu'il y a comme ces stéréotypes-là qui prennent le bord aussi, là. Ouais, fait que j'ai choisi ça parce que bon, ça avait l'air super intéressant. Ça me donnait aussi, tu sais, je t'ai parlé un peu de stabilité puis tout ça. C'est sûr que de partir, admettons, à l'étranger comme coopérant tout seul, c'est bien différent que moi d'aller dans ce cadre-là. Mais ça me permettait aussi, ce que j'aimais, c'est que en bougeant comme ça, je fais toujours le même travail, mais c'est jamais pareil. T'sais, les règles, tout ça, le cadre est toujours le même, mais après ça, il y a toujours la petite twist qui vient parce qu'on est dans tel pays ou tel autre pays où les gens qui voyagent là sont comme ci ou sont comme ça. Puis moi, de pouvoir aider les gens, parce que aussi, là, je fais un travail qui est vraiment, en Chine, je fais un travail qui est vraiment axé juste sur les Canadiens, Mais quand, parce que notre ambassade est énorme, puis que je peux me concentrer sur un aspect du travail. Mais dans tous mes autres postes avant, je faisais aussi tout le côté administration, donc gestion des ressources humaines, des finances, informatique, toutes ces choses-là. Puis ça me permet de faire 7 choses différentes par jour, puis chaque semaine est différente. Donc, c'est ça que j'aime, en fait. Parce que moi, la routine, j'aime pas même ça. Des fois, j'envie les gens, tu sais, pour qui c'est super important de tous les jours se lever à telle heure, puis de faire, je sais pas, tu sais, 15 minutes de méditation, puis de manger toujours la même chose. Tout ça. Des fois, je me dis, ah, ça doit être rassurant, mais moi, ça fait pas partie de. Moi, ma routine, c'est le fait que, tu sais, je me lève, on se prépare, les enfants, puis tout ça. Mais après ça, qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner, ça va varier. Puis quel jour je fais du vélo, puis quel jour je fais de la natation. Puis tout ça c'est, tu sais, ça vient comme c'est là. Ça a ses avantages puis ses désavantages, là, mais c'est ça.
Est-ce que on choisit où on va quand on travaille pour les affaires étrangères? Comment ça marche?
Oui et non. En fait, habituellement, on peut mettre jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, on pouvait mettre jusqu'à 5 choix. Puis là, c'est des choix qui sont basés sur les postes qui sont disponibles à ce moment-là dans les ambassades. C'est comme un cycle, dans le fond. On applique pour aller à l'étranger vers le mois d'octobre. On sait habituellement vers le mois de janvier où on va s'en aller, puis on déménage à l'été. Puis là, on reste selon ce qu'on appelle le niveau de difficulté du pays, donc à quel point c'est différent du Canada. Mais là, on peut rester 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça, c'est habituellement. Puis jusqu'à 5 ans. 5 ans, c'est vraiment le maximum. Donc, habituellement, on met nos postes comme ça. Comme mon conjoint et moi, tous les deux, on a besoin de se trouver des emplois en même temps dans le même poste. Ça réduit souvent la liste. Mais on a été, je te dirais qu'on a été super chanceux, puis que quand on est allé en Turquie, ou là, comme quand on est venu en Chine, c'est vraiment ce qu'on voulait, puis c'est ce qu'on a eu. Donc, on choisit un peu, mais quand on signe notre lettre d'offre, c'est bien clair que ça dit qu'on peut nous envoyer où le ministère décide, si jamais ils pensent qu'ils ont besoin de nous quelque part. À date, ça m'est pas arrivé, là. J'ai eu quand même un peu de choix.
Qu'est-ce qui t'a attiré à. Ben, peut-être est-ce qu'il y a une histoire d'un pays ou deux histoires de choix que tu as fait qui faisaient que tu étais plus attiré d'aller ici ou là?
Ben, je dirais que quand j'ai appliqué pour aller en Ukraine. J'avais eu la chance nous, on a comme ce qu'on appelle des devoirs temporaires. Si jamais quelqu'un quelque part doit partir en congé à long terme, tout ça, on a l'opportunité d'aller travailler de venir du Canada puis d'aller là, tout ça. Puis moi, j'avais eu la chance d'aller en Ukraine pour un remplacement. Puis j'avais eu vraiment, là, c'était un gros coup de cœur. Donc j'espérais vraiment avoir ce poste-là. Et puis ça s'est concrétisé. Puis là, on est allé pendant 3 ans en Ukraine. C'était au moment, ça c'était en 2005. Donc ça, c'était le moment où l'Ukraine était vraiment là dans une vague d'espoir tournée vers l'Europe. Il venait de finir ce qu'il appelait la Révolution orange. Ça allait super bien. Les relations avec le Canada étaient super fortes aussi. Tout ça. Fait que c'était vraiment un beau moment. Puis là aussi, tu sais, il y a le timing là, qui va dans tout ça. Moi, nous, on était un couple sans enfants encore. On s'est fait plein d'amis locaux qui, eux aussi, avaient à peu près notre âge, qui avaient plein d'intérêts. On a fait des voyages, on a fait des visites culturelles, on a fait plein de choses. Fait que ça a été là, 3 années vraiment extraordinaires. J'étais attirée par l'Ukraine parce que j'avais vécu en Croatie aussi. Puis moi, l'Europe de l'Est, ça me parle beaucoup. Puis c'est là aussi, bon, fait qu'il y avait une langue à apprendre, mais une langue qui était quand même assez proche du croate, donc tu sais, j'étais pas complètement perdue. Après ça, j'ai appris le cyrillique, puis c'est assez facile. Puis fait que tout ça a découlé. Fait que ça, c'était vraiment c'était un choix, puis ça a comme vraiment confirmé là que c'était le au bon endroit au bon moment. Fait que ça c'est quelque chose, c'est des tellement beaux souvenirs, mais c'est aussi super déchirant à cause de ce qui se passe présentement, puis des gens que je connais qui sont encore là, ou des gens que je connais qui sont partis, puis qui sont en attente en Pologne, puis qui se disent, ben, j'ai pas vraiment envie de m'établir là, je pourrais aller au Canada, mais ma vie, c'est en Ukraine, c'est là que je veux retourner. Mais après ça, tu sais, comme une de mes collègues, bon, c'est une maman aussi, son mari est resté en Ukraine, elle est partie avec les enfants. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils s'établissent ailleurs? Qu'est-ce qu'ils choisissent? Puis ça m'a comme touchée beaucoup parce que je me disais, waouh, tu sais, moi, je bouge de pays en pays parce que c'est moi qui le décide. Puis là, des gens que je connais, tu sais, il y a vraiment des visages pour moi là, dans ce conflit-là, des gens qui ont des choix vraiment déchirants à faire puis qui vivent des choses absolument incroyablement difficiles. Fait que je pense que j'ai adoré mon expérience en Ukraine, puis ça vient comme quintupler tout ça, là, avec aussi les gens qui sont là, à qui on pense, puis avec qui on essaie de faire des petits gestes qui vont peut-être les aider.
Ben, comme tu l'as mentionné plus tôt, on est très privilégié. On a cette capacité-là de faire des choix, que si on se dit on veut faire ça, on peut se dire oh, ben, je vais travailler fort, puis ça va marcher, tu sais. Puis je pense qu'on... On prend justement cette liberté-là pour acquis, mais c'est certainement pas ça fait pas partie de la donne pour beaucoup de gens sur la Terre, puis même beaucoup de gens ici aussi.
Non, exactement. Fait que ça me fait réaliser ce privilège-là, mais c'est aussi difficile de penser que un endroit où tu as vécu, où les gens ont une vie tellement similaire à la tienne, qui tout d'un coup, là, tu sais, tout est chamboulé.
Tout à fait. Ouais. Comme, ben, puis donc, son conjoint en a probablement une bonne idée aussi, étant croate.
Oui,
une autre place dans le monde qui a été chamboulée pas mal.
Ben, c'est ça, puis ça donne une perspective à notre famille des fois aussi, parce que bon, tu sais, c'est sûr que les enfants qui ont vécu le COVID, tu sais, on trouvait ça difficile, mais tu sais, moi je me dis toujours, puis votre papa, lui, quand il avait votre âge, ben, il continuait à aller à l'école, mais il passait la moitié de la journée dans le sol de l'école parce qu'il y avait des sirènes, puis qu'il essayait de continuer à avoir une vie normale, puis ben, ils ont réussi après, mais c'est tout ça. Fait que, oui, il y a plein de... Moi, j'espère que je suis assez consciente de mon privilège, mais probablement pas, là. Tu sais, c'est sûr que j'ai plein d'angles morts, mais je pense que plus je vieillis, plus je m'en rends compte aussi. Puis j'espère que, en général, là, justement, quand j'ai travaillé dans les différents pays, puis ça, j'ai pu faire au moins assez attention pour pas piler trop sur les autres, ou peut-être aussi amener un peu de ce privilège-là à d'autres gens, puis faire vivre là, des choses plus douces. Ouais.
Parle-moi du choix de la Chine, qui est ton assignation la plus récente. Quand est-ce que tu as commencé à travailler en Chine?
J'ai commencé à travailler en Chine, on est arrivé le 28 août 2021, donc ça va faire presque un an. Le choix de la Chine, ça s'est fait bien avant le COVID, ça s'est fait parce que, et mon conjoint et moi, on avait eu l'opportunité d'aller faire des devoirs temporaires justement à l'ambassade à Beijing, puis qu'on s'était dit, ah oui, comme vie de famille, ça nous plaît, c'est une culture tellement, tellement incroyable, on avait envie de pouvoir découvrir tout ça. Puis une chose que, je sais pas comment dire, une chose que j'ai vécue quand on était aussi en Turquie, quand on était à Cuba, c'est que le peuple d'un pays, puis le gouvernement d'un pays, c'est deux choses séparées. Puis, c'est sûr que quand on est diplomate, il faut toujours garder en tête les deux parce qu'on ne veut pas créer d'incidents, on veut pas... Mais en même temps, il y a tellement de beauté puis de belles choses à découvrir, même quand les relations sont tendues, même quand on ne voit pas les choses du même point de vue. Donc, je pense qu'il y a cet avantage-là qu'on a quand on peut vivre dans le pays. Comme c'est là, malheureusement... Là, le reste du monde est en train de s'ouvrir puis de vivre avec la COVID. La Chine n'a pas fait ce choix-là. La Chine a décidé qu'ils se repliaient puis qu'ils allaient continuer avec leur philosophie zéro COVID. Fait que ça rend la vie un peu plus difficile. On n'a pas pu sortir de Beijing depuis qu'on est arrivé. Pas parce que c'est interdit, juste parce qu'il y a tellement de règles puis il y a tellement de choses qui pourraient causer des problèmes. Pendant un bout de temps, si on sortait de Beijing, si jamais on était dans un endroit où il y avait un cas de découvert, il fallait qu'il passe 14 jours sans nouveau cas pour avoir le droit de re-rentrer à Beijing. C'est sûr que Beijing, c'est la capitale, on veut la garder vraiment très, très sécure. Donc, c'est tous ces défis-là. Il n'y a personne qui nous disait, Valérie, tu n'as pas le droit de sortir de Beijing. Mais en même temps, si moi je sors de Beijing puis que j'ai ça qui me pend au bout du nez, ben peut-être que j'ai pas envie encore. J'ai encore plein de choses à voir à Beijing.
C'est une grande
je
ville quand
pense que
même.
c'est ça, c'est ça. Ou des règles comme, par exemple, là, justement, si un parent sortait de Beijing, les enfants devaient rester à la maison pendant 2 semaines après le retour du parent avant d'avoir le droit de retourner. Donc, plein de défis comme ça qu'on n'avait pas du tout envisagé. Mais l'avantage, par contre, d'être dans une grande ambassade comme on est, où il y a presque 70 familles présentement, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a une nouvelle idée. Puis il y a toujours quelqu'un qui. Puis c'est un groupe où il y a des gens qui sont high, puis d'autres qui sont rendus dans le bas de la courbe. Puis ça se. Au moins, on se soutient comme ça. Mais la Chine, justement, c'était pour expérimenter tout ça, puis pour aussi comprendre de l'intérieur. Puis c'est sûr que moi, dans ce que moi je fais, c'est pas comme mettons les collègues d'aide internationale ou les collègues politiques, tout ça, qui sont là comme avec le but de soit faire changer les choses ou de, tu sais, moi je suis là pour m'assurer que les gens vont avoir les services dont ils ont besoin, puis ils vont réussir à passer, s'ils sont dans une situation difficile, qu'on va les aider à ce que ce soit le moins difficile possible. Peu importe ce qui se passe. Donc, c'est ce défi-là. Puis, c'est sûr, c'est pour ça que c'est toujours déchirant, justement, parce qu'en même temps, on a des collègues fantastiques qui sont tellement dévoués puis qui font super bien leur travail, puis tout ça. Donc, ouais, je pense que j'ai hâte de pouvoir sortir de Beijing pour découvrir aussi ce qu'il y a ailleurs, puis de voir ces gens-là, puis de voir aussi combien, c'est ça, c'est quoi la vraie vie, parce que nous, comme je te dis, on habite dans une espèce de bulle où que ce soit Beijing, que ce soit Tokyo, que ce soit Ankara, c'est pas mal similaire.
C'est des bulles globalisées,
Oui,
cosmopolitaines, en gros, hein.
tout à fait, tout à fait.
Est-ce que ça, je sais même pas si c'est possible, est-ce que ça vous a déjà passé par la tête l'idée de rentrer à Gatineau pour un poste dans la capitale pendant un bout de temps? Est-ce que c'est même possible?
Oui, c'est possible. Puis en fait, on l'a fait 2 fois depuis que les enfants sont nés. En fait, quand on a passé 3 ans à Cuba, les enfants devaient être de 3 ans à 6 ans. Après, on est rentré pendant 3 ans. Après, on est reparti. Puis on était là. C'est ça. Après Cuba, on est allé en Turquie. Puis avant Cuba, bon, ils sont nés. On est resté 3 ans. On est allé à Cuba. Donc, ça se fait. C'est des emplois complètement différents. Quand je suis rentrée en 2008, là, j'avais un poste de directrice dans l'unité de formation, si on veut. On a comme à l'intérieur du service extérieur, il y a l'institut de formation. Puis moi,
Genre de
j'étais en
bootcamp.
charge. C'est ouais. Puis moi, j'étais en charge de la formation des gens qui font le travail que moi je fais, donc agent de gestion et affaires consulaires. Donc ça, c'était super intéressant de pouvoir là de l'intérieur essayer d'influencer qu'est-ce qu'il y a dans le coffre à outils de ces gens-là avant qu'on les lance justement dans le monde, dans une ambassade. Puis après ça, la deuxième fois quand je suis rentrée de Cuba, là, j'ai travaillé au centre de gestion des urgences. Ça, c'était une affectation vraiment super intéressante. C'est là où, peu importe ce qui se passe dans le monde, on mobilise les équipes, tout le monde se met dans la grande salle, puis on se met à travailler ensemble selon un ordre établi pour s'assurer qu'on fait la gestion de la crise. Dans ce temps-là, ce qui est intéressant, ça va aussi avec un centre d'appel, ça va avec des bénévoles, ça, tu sais, c'est une grosse, grosse opération. Puis c'est toujours, tu sais, t'es tellement plein d'adrénaline, puis c'est tout le temps. Chaque fois que tu fais ça, dans le fond, tu te sens tellement, tellement bien, mais tellement impuissant dans certaines autres parties du travail. Mais ça, c'est vraiment super excitant. Puis ça, c'est le genre de travail à Ottawa qui m'intéresse beaucoup. Puis aussi, j'avais une autre partie encore là de formation. Donc, s'assurer que nos gens à l'étranger, parce qu'on utilise la même, dans le fond, la même structure de commandement, si on veut, et à l'étranger et à la centrale pour que ça soit aligné puis que les gens parlent le même langage puis qu'on fasse avancer les choses. Fait que ça a super bien fonctionné. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Fait que, puis la vie à Gatineau, ben c'est une vie plus difficile, par exemple, parce que justement, on avait choisi de s'établir comme un peu plus en banlieue, même si c'est pas très loin. Donc, prendre la voiture, même si en fait, on était chanceux parce qu'on faisait du covoiturage, tout ça. Mais c'est pas aussi... Il y a beaucoup de temps qui est passé, justement, dans ces choses-là, où prendre ta voiture pour aller faire l'épicerie, puis prendre ta voiture pour aller au Costco, puis ces affaires-là, puis les activités parascolaires, puis tout ça. Chose qui, pour nous, quand on est à l'étranger, habituellement, ça se passe pas mal tout le temps dans notre bulle. T'sais? Puis c'est soit à distance de marche, soit à distance de vélo, puis tout ça. Fait que ça fait une différence. Mais ça fait du bien de revenir. Moi, des fois, je me dis, c'est comme si on revient sur le pilote automatique quand on vient au Canada. Là, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas besoin de penser. Puis même là, tu vois, ça faisait 3 ans que je n'étais pas rentrée au Canada quand on est venu cet été. Juste le fait que partout où je regarde, je suis capable de comprendre quand je lis, je comprends quand les gens me disent quelque chose. Quand j'essaie d'organiser quelque chose, je peux prendre le téléphone, appeler, puis je suis certaine que je me suis bien fait comprendre. Puis, il y a toujours des surprises,
rien.
Mais c'est ça. Donc ça l'enlève une couche de stress. Puis je vais donner un exemple. Quand j'avais déménagé en Croatie, les premières semaines, j'étais tellement épuisée tous les soirs quand je revenais chez moi. Puis je me disais, mais c'est pourquoi? Puis après ça, quand je me suis mis à analyser les choses, là, je disais, mais c'est sûr, là, ça me prend 3 fois plus de temps à faire tout ce que je veux. Je connais rien, fait que je me cherche. Après ça, quand je pose des questions, mais là, ils ne comprennent pas. Tout ça, ça fait que... Mais c'est comme si tu oublies, puis ça fait partie de ton quotidien, puis tu vis avec. Mais une fois que tu sors de ça, là, tu te rends compte que ce côté-là, c'est plus facile.
C'est comme un niveau, une couche de base de stress, ou à tout le moins de complexité.
Oui, c'est ça.
Ça ajoute à ta vie constamment. Même, imagine si tu étais en banlieue de Beijing, même en étant dans cet espace globalisé-là, oui. Tu as toujours cette couche-là. Puis aussi, je pense, l'aspect interculturel.
Oui.
Même si quelqu'un qui parle la langue, il y a toujours des choses qu'on prend pour acquis dans notre... La clause, etc., certains disent, tu sais, quand on parle, puis on dit quelque chose, puis il y a tout un univers derrière la chose toute simple qu'on a dit, on prend ça pour acquis quand on communique, mais quand on communique avec quelqu'un de toute autre origine, c'est là qu'on se rend compte
oui.
de tout ce qui est dans ces bulles-là.
Oui, c'est ça, puis même justement la gestion des employés, puis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, puis c'est pour ça que pour moi, prendre des cours de langue, c'était super important. Dans tous mes postes, j'ai pris des cours de langue de base, mais pour aussi avoir l'aspect interculturel, connaître, là, c'est quoi les gros faux pas qui pourraient se passer. Puis il y a des choses, tu sais, les cultures sont tellement différentes. Quand tu arrives au bureau en Turquie, il faut que tu ailles dire bonjour à tout le monde, c'est super important. Puis si tu oublies quelqu'un ou si quelqu'un n'était pas là, là, des fois, il y a eu des frictions, mais là, j'ai-tu fait quelque chose, tu m'as pas dit bonjour, mais non, mais tu n'étais pas là quand je suis passée, puis après ça, tu sais, je suis passée à autre chose, moi. En Chine, ma prof de mandarin me disait « Oui, mais nous, si on s'est dit bonjour une fois dans la journée, là, après ça, quand on se revoit, là, on n'a pas besoin de se sourire, de se dire « Allô » ou tout ça. C'était fait. » Ou moi, je voulais toujours... Check. Je disais toujours « Oui, c'est ça. » Mais puis, c'est une langue où la politesse, c'est pas ça fait pas partie de la langue. Moi, je veux toujours dire « S'il vous plaît, merci » ou tout ça. Puis, elle me dit « Mais non, t'as pas besoin. C'est pas là. C'est comme ça. C'est une langue aussi où c'est pas... Il y a pas un oui clair, puis il y a un non clair. C'est la première fois que j'apprends une langue où ça fait pas partie des 10 premiers mots que j'apprends. Donc, c'est comme ça. Puis, je trouve ça... Ce qui est le fun aussi quand tu prends des cours de langue, c'est que c'est une interaction positive avec quelqu'un du pays. Elle n'est pas difficile, cette interaction-là, parce que la personne est là pour t'apprendre sa langue. Habituellement, elle est passionnée par son pays, par sa langue. Puis elle te donne plein d'informations que tu ne pourrais pas avoir quand tu es sur la rue, ou même s'il y a des gens qui sont bien intentionnés. Là, au moins, cette personne-là est là pour toi, puis pour t'apprendre. Puis aussi, elle est tellement contente que toi, tu veuilles faire l'effort d'apprendre sa langue aussi.
Complètement, parce que je peux imaginer que quand on se déplace constamment d'un pays à un autre, puis même si on passe 3 ans, là, ça peut être facile de surfer un peu sur cet environnement globalisé-là, puis
oui.
se dire, ben, de toute façon, je m'en vais dans 2 ans. je ne vais pas m'investir trop profondément, parce que c'est pas facile d'apprendre une langue, particulièrement une langue comme le mandarin ou le russe, ou n'importe quoi.
Mais moi, c'est ça, puis c'est drôle, tu sais, tu parles on a parlé un peu de ce qu'on veut donner, puis tout ça. Une des choses, mon fils est un peu comme ça, là. Lui, là, les langues, ça ne vient pas super facilement. Puis, dans le système français des écoles à l'étranger, là, comme c'est là, ils apprennent le français, ils sont dans la section britannique, donc ils ont 6 heures de cours généraux en anglais. Ensuite, ils apprennent le mandarin, puis ils apprennent une autre langue vivante. Donc, lui, c'est l'espagnol, ma fille, c'est l'allemand. Fait que le mandarin, bon, on va être encore là 2 ans. Moi, j'essaie de dire, oui, mais tu sais, le potentiel dans ta vie, là, la Chine, c'est quelque chose de vraiment important, là. Déjà que tu sois bilingue anglais-français, c'est bien, là, mais si tu peux parler en plus mandarin, tout ça. Tu sais, quand on était en Turquie, de le convaincre que le turc, ça allait être utile, c'était plus difficile. Parce que,
c'est moins répandu sur la planète.
C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a toutes ces parties-là, mais c'est super important. Ça fait partie aussi de, justement, là, de la persévérance, puis de mieux s'introduire dans la culture. Mais souvent, comme une de mes collègues dit, on apprend assez de la langue pour se mettre dans le trou, mais pas assez pour s'en sortir. En pensant qu'on a compris puis qu'on sait quoi faire.
Mon expérience en Croatie, je me souviens à l'époque, la personne avec qui je voyageais avait dit « Ah, tu sais, je parle un peu italien, tu parles un peu allemand, on parle français, anglais, ça va être correct. » Moi, j'avais dit « Je prends pas de chance. » J'avais pris les 30 premiers jours de... apprendre le serbo-croate en 90 jours, puis je pouvais compter, puis tu sais, des trucs vraiment de base.
Les jours de la semaine.
Mais en savoir un peu, c'était presque pire, parce que j'arrivais avec le dictionnaire à poser une question profonde à nos hôtes dans notre auberge ou notre bed and breakfast, puis là, ils trouvaient « Hey, elle parle donc bien croate, tu sais », puis là, ils me donnaient une réponse. J'avais aucune idée, puis aucun moyen possible de comprendre qu'est-ce qu'ils me disaient, tu sais. Fait que c'est ça, j'en savais un peu trop pour être à mon avantage, c'est ça. Puis en même temps, profondément pas assez, tu sais. Parlons justement de la question des enfants, parce que je peux imaginer que quelqu'un qui décide de s'engager dans un service à l'étranger, que ce soit le secteur privé ou public, là, pourrait se dire, ben c'est trop compliqué d'avoir des enfants, je vais pas faire ça. Est-ce que c'est un choix, est-ce que c'était même un choix pour toi? Parce que je pense que pour certaines personnes, ça va de soi qu'ils vont avoir des enfants ou non. Parlons de ce choix-là de fonder une famille.
Ben oui, je pense que j'ai toujours eu comme l'idée que j'aurais une famille, mais de quoi cette famille-là aurait l'air, c'était pas clair dans ma tête. Puis tu vois, ça a pris comme 8 ans avant qu'on décide que là, c'était le temps qu'on voulait vraiment fonder une famille. Puis là, ben, on était chanceux, les deux sont arrivés d'un coup.
C'est fait.
Fait que, ben, il y a plein de choses là-dedans. Fait que c'était une décision très décidé, là. Il y avait pas de surprise dans ça. Même si c'est peut-être arrivé un peu plus vite que ce qu'on pensait, dans le sens que, tu sais, c'est pas toutes les familles qui sont chanceuses que ça fonctionne du premier coup quand ils veulent. Puis j'ai des collègues pour qui ça avait été difficile. Fait que, non, ça, c'était une décision consciente, on voulait. Puis, le côté vie à l'étranger, ben c'est sûr qu'il y a comme deux côtés, OK? Comme moi, j'étais enceinte quand j'ai fini mon poste en Ukraine. Puis là, comme on a des services médicaux avec une assurance privée, ben on a comme accès à plus de choses. Par contre, dépendant des pays, là, c'est pas le cas en Ukraine, là, mais il y a d'autres pays où tu dis, par contre, si jamais il y avait une urgence, ben là, je pourrais peut-être pas avoir les soins dont j'ai besoin. Puis je pense, une grosse préoccupation, là, dans tous les pays où on est allé, là, c'est la qualité du sang que tu vas recevoir si jamais tu as besoin d'une transfusion. Ça, c'est quelque chose qui reste toujours un peu là. Mais en même temps, tu sais, tu te dis, bon, je pourrais aussi habiter à 5 heures de l'hôpital le plus proche au Québec, tu sais, où je pourrais attendre 18 heures dans la salle d'attente. Fait qu'il y a ce côté-là. Mais tu sais, élever des enfants dans un milieu comme ça, ce qui est intéressant, surtout dans les ambassades, c'est qu'habituellement, il y a des gens de tous les styles, là, tu sais, il va avoir des couples hétérosexuels, des couples homosexuels, il va y avoir des gens tout seuls, il va y avoir des gens avec des familles, des gens qui ont des enfants qui sont plus là. Fait que, on a toujours été comme exposés à plein d'options, puis voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui nous plaît, puis tout ça. C'est sûr que moi, quand je repense à mon adolescence, si quand j'avais 13-14 ans, on m'avait sorti de mon milieu comme ça, je pense que j'aurais été traumatisée parce que bon, mes amis de maintenant, c'est encore mes amis de ce temps-là. C'est là que tout s'est formé. Mais je vivais aussi dans un milieu où c'était assez stable, puis il n'y en avait pas tant de gens qui arrivaient ou qui repartaient. L'avantage quand on habite à l'étranger puis que les enfants vont dans des écoles internationales comme le lycée aussi, c'est que chaque année, il y a des enfants qui arrivent, chaque année, il y a des enfants qui partent. Ça fait partie, puis tout le monde est là, puis tu sais, ils se demandent, toi, ça fait combien de temps que tu es là, tu t'en vas quand, tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont là à long terme. Fait que ça fait une vie qui se ressemble beaucoup. Donc, ils ont beaucoup d'affinités avec ces gens-là. Puis d'une fois à l'autre, on se rend compte aussi que ben, peut-être que mes enfants, tu sais, on est chanceux, là, ils sont sociables, ils n'ont pas de difficultés particulières, là. Fait que, tu sais, ils se sont fait des amis, tout ça, puis ils ont quand même gardé contact avec des amis qu'ils avaient à Gatineau quand ils étaient en troisième année. Fait que ça vient, puis je pense que c'est une très grande richesse en même temps, mais des fois, c'est aussi risqué de faire des enfants blasés un peu, parce que quand tu as, tu sais, quand tu as 10 ans, puis que ça fait 25 fois que tu prends l'avion, puis que tes parents t'ont amené voir... les sept merveilles du monde, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a de plus pour toi? Fait que ça, c'est quelque chose dont on est bien conscient parce que et mon conjoint et moi, on a grandi dans des familles où, bon, les voyages, les grandes vacances, puis tout ça, c'était pas là. Ça faisait pas partie de ça. Fait qu'on essaie aussi de garder nos enfants dans le monde assez normal. De toute façon, on se sent privilégié, là, mais après, quand on voit la richesse de certains des collègues à l'école, puis ça, on n'est pas dans la même ligue de toute façon. Là. On est encore très terre à terre dans notre façon de vivre tout ça. Fait que je pense que ça a un gros plus. C'est sûr que c'est difficile, par contre, on est loin des grands-parents, on est loin du support familial. Puis quand on arrive dans un nouveau pays, si on n'arrive pas rapidement à se faire cette espèce de base-là, des fois, c'est un peu angoissant là, de dire, ben là, s'il se passe quelque chose, à qui est-ce que je peux confier mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Mais finalement, on a été chanceux pour ça. Mais c'est sûr que la COVID, ça a rendu les choses difficiles. Nous, on avait fait depuis qu'il y avait 3 ans, en fait, on avait habituellement quelqu'un qui venait où on est puis qui ramenait les enfants au Canada pour rester avec leurs grands-parents pendant une période. Nous, on allait les mener en Croatie avec les autres grands-parents. On faisait un peu de voyage sans eux. Fait qu'ils ont eu la chance de vivre des moments vraiment spécifiques avec leurs grands-parents. Mais là, depuis 2020, ça ne s'était pas passé. Puis je pense que ça leur a manqué beaucoup. Mais avec la technologie aujourd'hui, on est tellement chanceux. Puis on se faisait un devoir là, de s'assurer qu'on s'appelait régulièrement puis qu'on se voyait régulièrement aussi comme ça. Ça remplace pas, mais ça aide beaucoup à connaître le quotidien de l'autre. Puis je pense que c'est là que c'est important. Puis c'est là que tu gardes le lien, en fait.
Garder l'ancrage dans nos origines jusqu'à un certain point.
Oui.
As-tu, Valérie, des regrets de... Je m'excuse, je ne t'avais pas averti que j'allais te demander
ça. Oh, non, non! Non, non. Ben des regrets, je pense que d'être loin, là, présentement, nos parents, on vieillit tous, là, tu sais, moi, je me dis, wow, je suis rendue à 45 ans, je peux même pas... Moi, je me souviens de ma mère quand elle avait 45 ans, puis dans ma tête, tu étais rendue vieille.
Et moi, oui!
Je me sens pas vieille, justement. Mais, ouais, fait que je pense que... Le regret, c'est peut-être un peu ça, là, de manquer certains grands événements. T'sais, on va toucher du bois. Là. À date, j'ai été chanceuse, mais on n'a pas vécu de choses familiales difficiles où je pouvais pas être là. Quoique, tu sais, quand mes grands-parents sont décédés, j'aurais aimé ça revenir. C'était pas toujours possible. Fait qu'on a vécu le deuil différemment. Fait que ça, c'est peut-être un peu des regrets, mais je pense que je vais donner ça à mes parents, là, ils sont super compréhensifs. Puis aussi de trouver puis on en parle, puis on trouve des manières aussi là de marquer ces choses-là par après. Puis pour te donner un exemple, là, nous, on n'envoie plus des cadeaux de Noël, puis si ça, on se dit quand on va se voir, c'est là qu'on va, au moment présent, ensemble, profiter, faire des choses ensemble, plutôt que, tu sais, d'envoyer un petit quelque chose, tout ça, mais on se parle, on se voit, puis tout ça. Fait que, c'est ça. Je pense que mon regret, c'est plutôt ça, mais on est quand même capable de le naviguer. Là, on va voir comment les choses évoluent, justement, avec la famille. C'est ma famille à moi, mais c'est aussi le défi que moi, mon conjoint et ses parents sont encore en Croatie. Ils sont en santé, ça va bien. Ils voyagent. Tu vois, là, ils sont venus nous rejoindre ici au Québec pour passer du temps avec nous parce que là, dans l'horaire, ça ne marchait pas d'aller en Croatie avant de rentrer en Chine. Fait qu'il y a ces possibilités-là. Mais je pense que le jour où ces choses-là seront plus possibles, ça va m'amener à revisiter mes choix puis peut-être avoir à prendre des décisions plus difficiles puis faire des choix différents.
À tout le moins, j'ose espérer qu'à ce moment-là, tes enfants vont être encore plus grands. Ça donne bien comme ça que quand nos parents ont peut-être plus besoin d'aide, nos enfants
en ont moins besoin.
Souhaitons-le, parce que les enfants peuvent avoir besoin de leurs parents à tous les âges, mais...
C'est ça.
Peut-être être plus indépendant, certainement être plus indépendant.
C'est ça, trouver une façon de conjuguer tout ça, oui.
Et ta plus grande fierté?
C'est drôle, hein? Moi, je suis pas certaine. Je suis super fière de ma vie dans le sens que je pense que j'ai probablement je suis arrivée au bon endroit au bon moment. J'ai eu la chance de faire les bons choix, d'avoir la santé mentale dont j'avais besoin pour rendre la vie comme facile. Je pense que j'ai comme fait des choix qui m'ont amené logiquement à d'autres endroits qui me rendaient heureuse dans ça. Donc je pense que c'est probablement ça ma fierté. Mais je suis quelqu'un qui je suis quand même assez humble, puis c'est des choses qui me... Je sais pas, j'y pense pas trop. Tu sais, c'est pas... C'est ça, je me sens bien quand j'ai donné tout ce que j'avais à donner, mais j'aime pas ça être en avant. J'aime ça comme jouer le rôle d'appui, puis de pouvoir voir de mon pas de recul là, que tout se déroule comme c'est supposé. Je pense que, ouais.
Est-ce que c'est pas un peu un trait féminin, tu penses?
Probablement. Ça, c'est super intéressant parce qu'une des choses que je trouve qui est vraiment bien de travailler pour la fonction publique, c'est que, tu sais, tous les thèmes à la mode, là, on va finir par avoir une session soit de formation ou de sensibilisation ou tout ça. Fait que, tu sais, ça nous garde, des fois, un petit peu en retard, là, mais il y a comme tous ces concepts-là qui nous sont amenés, puis on a l'opportunité d'y réfléchir, puis de voir ça. Puis je pense que oui, puis tu sais, c'est sûr que quand tu t'étudies la gestion des... l'administration des affaires, puis la gestion des ressources humaines, puis ça, il y a plein de théories par rapport à ça. Peut-être que oui, c'est un trait féminin, mais moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. J'ai lu un article l'autre jour qui parlait du... comment ils appelaient ça? C'est comme les tâches non rémunérées dans un bureau, OK?
Ouais,
fait de prendre, mettons, les notes dans une réunion, de faire tout ça, puis que souvent, les femmes vont plus se laisser convaincre que, oui, soit aller de l'avant ou trouver que c'est normal de se faire demander de faire ça. Puis ça, c'est quelque chose qui reste souvent là, je suis rendue à un niveau assez élevé pour que moi, je sois des fois celle qui assigne des tâches. Puis ça, moi, je trouve, tu sais, j'y pense souvent quand je fais ces choix-là ou quand je gère mon équipe. Par contre, je pense que de la manière que nos promotions sont faites, puis tout ça, je sais pas si ça fait une aussi grande différence que dans le secteur privé, par contre. Mais oui, je pense que c'est un trait féminin, ça fait partie aussi de tu sais, j'ai utilisé le mot doux plusieurs fois dans notre entrevue. Pour moi, c'est important. On n'a pas besoin. Moi, j'ai pas envie de me battre. Tu sais, j'admire les gens là, qui voient une cause puis qui vont se donner complètement pour cette cause-là. Moi, je suis peut-être pas. Je suis comme un peu plus là pour donner du support à ces gens-là, admettons. Ou si je voyais que mon conjoint ou mes enfants ont envie de s'investir là-dedans, ben moi, je serais là comme pour dire, OK, ben moi, je vais te soutenir, là, je vais te pousser, je vais te donner tout ce qu'il faut pour que toi, tu puisses réaliser ça. Puis moi, je me sens bien là-dedans.
C'est parfait pour moi. T'sais. Je pense que c'est comme, moi, je fais souvent la comparaison avec la cuisine, mais les choses qu'on assigne aux femmes, soit parce qu'on est, c'est l'œuf ou la poule jusqu'à un certain, à plusieurs égards, mais deviennent souvent dévalorisées ou sont dévalorisées, oui. Donc on les donne aux femmes. Mais en fait, comme dans le cas de la cuisine, moi je dis, ben, c'est la chose la plus importante. Ouais. Et donc, ça, c'est pas, ça me fait plaisir de le faire. Puis je veux pas que ce soit dévalorisé parce que, puis justement, ces fonctions-là dans les milieux de travail qui sont plus la lubrification des relations sociales, là, tu sais,
ouais.
Que souvent les femmes font, ben, au lieu de se dire comme femme, je ne les ferai pas, on peut aussi faire la bataille douce, si tu veux,
oui.
Pour les valoriser et pour que ces activités-là soient reconnues.
Ben oui, parce que tout le monde aime ça quand ça se passe comme ça. C'est sûr que des fois, il y a comme une fatigue qui peut s'installer quand tu es dans un milieu qui est trop petit puis que ça revient toujours à la même personne. Ça, c'est quelque chose auquel moi, je fais attention. Puis c'est un signal là, que je... Puis j'hésiterai pas là, à dire, admettons, ben là, moi, non, cette fois-ci, tu sais, je passe. Non, merci. Là.
Ouais.
Non, merci. Mais ça fait partie des choses. Puis en ayant un garçon puis une fille qui ont le même âge, pour moi, ben quand je fais des choses, je les intègre tous les deux puis on les fait ensemble. Puis c'est la même chose avec mon conjoint. Quand lui fait des choses avec eux, ben il les fait avec eux. Puis c'est pas, même si on a, je te dirais qu'on a une vie familiale assez traditionnelle du côté qui fait quoi, mais en même temps, ça fait partie de nos forces, ça fait partie des choses qu'on aime, puis c'est pas, justement, là, si je planifie les repas, c'est parce que pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes pour notre famille, tu sais, mon conjoint va s'organiser avec les finances, puis tout ça, parce que pour lui, il y a une facilité, il y a un intérêt, c'est lui, il va, tu sais, moi, je regarde des recettes, lui, il lit des rapports financiers, tu sais, c'est comme, bon, puis c'est pas parce que lui, c'est le gars, puis moi, je suis la fille, c'est parce que, bon, c'est comme ça, puis on a trouvé les choses qui nous plaisent chacun.
Ça me convient.
C'est ça.
Parlons d'avenir. Pour boucler la boucle, Valérie, nous sommes, j'ose espérer qu'on est à peu près à la moitié de notre vie. Statistiquement, ça ressemble
aussi,
à
j'espère.
Ça. comment envisages-tu cette deuxième moitié-là de ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Comment ça s'annonce pour toi?
Bien, c'est super intéressant parce que, justement, comme je disais, je suis dans une partie de ma vie où là, mes enfants ont moins besoin de moi, où je suis en train de me trouver des choses que j'ai envie de faire, de faire des projets. C'est sûr que ce qui est difficile quand tu changes de place à chaque 3 ans, c'est que des fois, des projets à plus long terme, c'est plus difficile parce que, bon, tu n'auras pas tout ce qu'il faut, tu ne peux pas voyager aussi souvent, tout ça. C'est sûr que mon conjoint et moi, moi, je me dis qu'il me reste à peu près 10 ans à travailler là, de côté formel. Okay? Après ça, moi, je te dis pas que je vais prendre ma retraite puis que je vais m'asseoir dans mon divan puis que je vais rester là. Non, mais j'espère plus avoir à me lever tous les matins puis à aller. Je veux avoir le goût de le faire. Souvent, c'est encore comme ça. J'ai le goût de le faire. Je me lève le matin, puis je suis contente puis je suis contente de ce que j'ai accompli dans ma journée. Mais ce qui va s'en venir. C'est un petit peu, je pense que le reste de ma vie va être un peu à l'image de ce que j'ai vécu, là. C'est quoi les opportunités qui vont venir? Ça va dépendre de tellement de choses. Peut-être que nos enfants vont décider d'étudier ailleurs dans le monde, puis qu'on va décider de s'installer là parce que notre noyau familial va être rendu là. Peut-être que là, on vient de passer quelques jours là, dans un chalet dans les cantons de l'Est, là, avec un grand terrain, puis plein de travaux à faire, puis ça. Puis je me dis, ben oui, moi, je me verrais. Mais en même temps, je veux que le jour où je décide qu'on va louer un appartement en Italie pour un mois puis qu'on va aller faire du slow travel, ben que je vais pouvoir le faire puis que je ne serai pas prise pour me dire « Ah, mais là, je peux pas parce que là, tu sais, telle affaire ou tel projet. » Fait que je veux me laisser le plus de liberté possible puis en profiter le plus vite possible parce que, tu sais, on a parlé du vieillissement puis tout ça, de quoi on va avoir l'air rendu dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, c'est l'autre histoire, là. Donc, j'ai pas envie non plus de dire là, quand je vais être à ma retraite, je vais faire ci puis je vais faire ça. Là, sais, je pense que ça va continuer à rouler. Puis, on va voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais certainement, continuer à m'impliquer ici et là. C'est super intéressant. J'ai des collègues qui ont pris leur retraite, ça fait 10-15 ans, puis qui, sporadiquement, l'hiver, si c'est des golfeurs, puis l'été, si c'est des skieurs, vont prendre des contrats, mettons 3 mois pour aller remplacer quelqu'un à quelque part. Puis ça, c'est quelque chose qui me plaît, parce que tu te remets dedans, tu vas arranger les choses un petit peu, t'aides avec certaines choses, puis là, ben après ça, tu as fait ce que tu pouvais, puis là, c'est le temps de laisser aller, puis de retourner faire ce que tu as envie de faire.
Des ski-bombes diplomatiques.
Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, j'espère, en tout cas, mais ça, c'est sûr que c'est une vision, là, si moi puis mon conjoint, on est en santé, puis que mes enfants vont bien, puis que mes parents n'ont pas besoin d'aide, puis tout ça. Et encore une fois, on parle de privilège, tu sais, je veux dire, je vais être dans une situation où si on a besoin de soins particuliers ou d'aménagements particuliers pour rendre notre vie plus facile, on devrait être capable de se le permettre ou d'aider les autres autour de nous qui en auront besoin.
On est à l'âge, tu l'as mentionné quelquefois, où on commence à réfléchir davantage aux questions de santé, de maladie, peut-être même de mort dans certains cas. Moi, j'ai perdu mon père il y a 2 ans maintenant. Est-ce que ça fait partie de est-ce que c'est sur ton radar? Les questions plus même corporelles, mais tu sais, je pense qu'on peut tellement oublier ça. C'est pas tout le monde, mais ceux d'entre nous qui ont le privilège d'être en bonne santé peuvent oublier tout ça pendant une vingtaine d'années, mais éventuellement, ça nous rattrape. Est-ce que ça fait partie de ton univers présentement?
Bien, c'est sûr que en voyant, j'ai vu mes parents s'occuper de mes grands-parents, là, je vois mes parents. C'est sûr que ça fait partie de ma réalité, mais j'espère toujours que je vais quand même, peu importe ce sera quoi les limites, que je vais réussir à trouver des choses qui vont me rendre heureuse quand même. Malgré ça, j'ose espérer que ma capacité à m'adapter puis à continuer à aller avec ce que la vie m'apporte, ça va faire que justement, je ne m'apitoierai pas sur mon sort puis je vais continuer de l'avant avec ce qui sera possible de faire. Mais ça, tu sais, c'est facile de dire ça quand autour de nous tout est encore rose, là. Fait qu'on va voir, mais ça m'inquiète pas outre mesure parce que je me dis, tu sais, on prend quand même soin de nous, puis on espère que ça va aider à ce que le reste suive comme il faut. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça, la question du futur, en fait, c'est toujours un peu, ça a toujours été un peu pareil pour moi, là, je me projette jamais trop, trop loin dans l'avenir, là, je me dis, c'est quoi mon prochain pas, là.
Donc, tu devrais continuer encore quelques années dans le même genre de travail que tu fais maintenant?
Oui, oui, puis des fois, c'est drôle parce que comme j'ai commencé avant mon conjoint, mais lui, il va falloir qu'il travaille plus longtemps un peu. Puis moi, je dis, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on retourne en poste, puis que moi, j'ai pas d'emploi, puis que là, pour une fois, parce que, mais tu sais, si tu me permets de revenir sur une question que tu m'as posée, les regrets, oui. Là, des fois, là, justement, dans la vie qu'on a, d'être, il y a beaucoup d'expatriés où c'est le papa qui travaille, puis la maman ne travaille pas. Puis quand mes enfants étaient plus petits, des fois, je regrettais parce que je manquais des opportunités. Tu sais, moi, je ne peux pas aller du mercredi au vendredi louer une petite cabane sur la plage à Cuba puis passer du temps avec les enfants puis les autres mamans. Tu sais, ça marchait pas, ça rentrait pas dans... Fait que je pense que c'est peut-être un peu des regrets comme ça, mais en même temps, je me verrais tellement pas dans cette vie-là que je me dis, bon, mais les 4-5 fois dans ma vie où j'ai eu un petit regret, je pense que, tu sais, ça...
ça a eu la
ça
peine.
Ça va, là, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça aussi dans l'avenir puis dans ce qui s'en vient, puis vouloir continuer, mais aussi peut-être avoir le temps, justement, là, de prendre le temps, mais de vivre encore à l'étranger la vie que j'ai, mais en étant celle qui, tu sais, qui peut prendre le pas de recul puis rester à la maison puis s'organiser puis planifier puis tout ça.
Peut-être que tu pourras louer une petite cabana avec tes petits-enfants.
Mais oui!
Ça aura plus de temps.
Oui, définitivement.
Avant grand-papa.
Oui.
Peut-être pour conclure, quel héritage souhaiterais-tu léguer? Quand on se souviendra de Valérie Sorel dans son temps? Qu'est-ce que tu voudrais laisser derrière toi comme héritage, mm-hmm. cadeau au monde.
Ben moi, j'aimerais ça qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui, justement, tu sais, j'ai parlé de douceur, là, mais qui a toujours travaillé puis qui a toujours fait, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie de famille, que ce soit avec mes amis, là, tu sais, qui a... Je veux pas être vu comme quelqu'un qui s'est donné pour les autres. Ça, c'est pas ça. C'est plus comme d'avoir profité de tout ça en rendant les choses belles puis plus faciles aux autres aussi. Tu sais, dans le fond, là, de m'assurer, là, de pouvoir paver le chemin puis pour que ça continue de manière, là, pas trop difficile, puis que quand les choses ont été difficiles, ben, qu'on puisse trouver du réconfort puis du répit. C'est ça, puis je pense que je fais ça dans ma gestion avec mes employés, dans ma famille, tout ça, c'est comme ma façon, puis c'est ça pourquoi j'aimerais ça être, faut qu'on se souvienne de moi, finalement.
J'aime bien cette idée-là, puis ça me semble absolument cohérent avec cette trajectoire-là dont tu m'as parlé, puis même, je peux imaginer avec ton travail au quotidien, parce que franchement, si tu travailles... notamment avec les détenus, là, c'est certainement des gens qui ont besoin d'un peu d'assouplissement et de douceur dans leur vie, n'est-ce pas?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Fait que c'est toujours intéressant de bien doser, parce qu'habituellement, quand on fait une visite, justement, de prison, que ce soit, peu importe où on le fait dans le monde, on a comme une partie administrative, technique, à travers laquelle on doit passer. Là, on veut s'assurer que... s'il y avait des problèmes médicaux, ben que ça a été réglé. Tu sais, c'est comme notre 15 minutes habituellement, là, ça va entre 15 et 30 minutes, là, où on a le temps de parler de tout. Souvent, la famille nous a donné des messages, veulent avoir des réponses, des décisions à prendre, puis tout ça. Mais aussi, garder un petit peu de temps, là, pour les laisser aller dans la direction où ils veulent aller. Parce que c'est ça, il y a pas... C'est rare, là, qu'il y ait quelqu'un qui est là pour eux, pour les écouter aussi.
Amener un peu d'humanité, hein.
Oui, tout à fait. Ça, c'est très, très, très important pour moi.
Oui, oui. Dans les circonstances difficiles. Valérie, merci infiniment pour ton temps aujourd'hui, pour avoir partagé tout ça avec moi. Je suis super inspirée.
Ah, mais tant mieux.
j'ai hâte à notre prochaine conversation quand tu seras à la retraite. Ça va s'appeler la soixantaine.
La soixantaine. Je vais attendre. Là, oui, on va rester en contact. Puis je vais être heureuse de pouvoir discuter de ça avec toi puis dire si je suis toujours capable de rouler ou d'aller avec les flots comme j'espérais.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 5e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.